Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 119. Kevin DeYoung est très sage en nous faisant commencer là pour simplement introduire qu'est-ce que la Bible représente pour le chrétien. On commence par ça ce matin. Qu'est-ce qu'elle représente pour le chrétien? Quel est ce livre à nos yeux, à nous? D'accord? Et le psaume 119 est définitivement la place où aller pour répondre à cette question-là. Si dans votre rapport avec la Bible, vous avez une relation qui est difficile parce que vous n'êtes pas des lecteurs, vous vous dites « je suis pas un intello, c'est pas my cup of tea de lire constamment, de méditer, tout ça », psaume 119, collez-le pour un bout de temps. Lisez le psaume 119, lisez-le par simple petite partie. Le psaume 119, c'est un acrostiche qui est construit sur l'alphabet hébreu. Et donc, c'est bâti en, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais en toute petite section d'à peu près 5 versets, d'accord? 6 versets. Et donc, tout simplement, vous pouvez en prendre une à la fois. Mais dans ce psaume-là, des fois, vous allez avoir l'impression que l'auteur est juste sur le plan émotif. Puis d'autres fois, vous allez réaliser, non, il est en train de dire ce qu'il croit sur la Bible aussi. Il est en train de nous dire comment est-ce qu'il voit la parole de Dieu. Et il utilise une multitude de synonymes pour désigner la Bible en parlant des commandements, des préceptes, de la loi, de la parole de Dieu, d'accord? Mais je vous dirais, si dans votre relation avec la Bible, c'est quelque chose qui est difficile parce que vous dites, c'est juste pas pour moi de lire et méditer, allez dans le psaume 119. Et puis, si vous êtes un sceptique, tout à l'heure, j'ai commencé à adresser ça. Si vous êtes un sceptique, bien, moi, j'aimerais ça vous encourager à faire quelque chose. Puis, si vous jasez avec des amis qui sont sceptiques, je vous encourage à faire ça. Dans la suite du cours, on va défendre la validité des Écritures. Mais si aujourd'hui, vous dites, moi, je suis un sceptique, là, je suis venu à ce cours-là pour que tu me convainques que ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je vous encourage à coller avec le psaume 119 aussi, d'accord? Parce que je crois vraiment que c'est la parole de Dieu. Puis pour moi, je dis souvent lorsque je parle avec des gens qui ne sont pas chrétiens, je leur dis, regarde, pour moi, ce n'est pas compliqué, c'est Dieu qui a le fardeau de la preuve. Si Dieu est Dieu, c'est lui qui a le fardeau de la preuve. Si la Bible est la parole de Dieu, c'est elle qui a le fardeau de la preuve. Et ça se fait non seulement avec une démarche rationnelle, critique, analytique, tout ça, mais ça se passe aussi par une réponse qui se passe dans notre cœur. La majorité, pour ne pas dire la totalité, mais la majorité des grandes décisions qu'on prend dans notre vie, c'est des choses qu'on prend premièrement avec le cœur. Ce ne sont pas des choses qui sont 100% rationnelles. D'accord? Qui aujourd'hui, sur une base uniquement rationnelle, voudrait avoir des enfants dans le monde dans lequel on vit? Et je dois avoir des discussions avec des chrétiens qui se disent, je pense que je ne veux pas mettre d'enfants au monde, dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qu'on sait sur l'état de la planète puis tout ça, d'accord? Les plus grandes décisions de la vie, on les prend à la fois avec notre intelligence et avec notre cœur. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est si vous êtes sceptique, collez avec le psaume 119. En même temps que vous cherchez, vous attendez du cours des réponses analytiques, critiques, scientifiques, d'accord? Allez-y avec ça aussi. Et soyez attentifs pour voir ce qui va se passer dans votre cœur, dans votre âme. Croire, ressentir et faire. Alors, c'est trois domaines qui sont très bien adressés dans le psaume 119. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défiler, on va se promener dans le psaume 119, puis on va aller voir plein de passages qui nous aident à comprendre tout simplement cette perspective-là. Le psaume 119, au verset 167, l'auteur dit « Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. » Verset 129 à 136, c'est la plus longue partie que je vais vous lire ce matin. « Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. » Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. On a à peu près 8 ou 9 synonymes pour désigner la loi, la parole de Dieu, dans ces quelques versets-là. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit la passion. On voit l'amour, l'affection, la conviction. Parce qu'on méprise la parole de Dieu, il dit « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » L'auteur du psaume 119 a une relation affective super intense avec la parole de Dieu. Et donc, si dans votre vision, par exemple, de l'Église de l'Espoir, d'une Église baptiste, si dans votre vision de tout ça, c'est que c'est un endroit rationnel où on s'adresse à la raison, puis on étudie, puis on donne des informations, c'est vraiment pas le but. Oui, on veut réformer notre pensée, on veut que notre pensée devienne conforme à la parole de Dieu, mais c'est simplement parce que Dieu nous commande de l'aimer avec toute notre pensée. Et c'est simplement parce qu'on pense que lorsque ma pensée est éclairée par la parole de Dieu, mon cœur va aimer passionnément Dieu. Alors, si dans votre vision de l'Église de l'Espoir, des cours, des démarches qu'on fait, des études que vous pouvez faire, de la théologie que vous pouvez étudier, si à travers tout ça, vous voyez ça comme une démarche intellectuelle, vous êtes grandement dans l'erreur si ça s'arrête là. Parce qu'en réalité, tout cela vise à ce que nos cœurs soient consumés dans notre amour pour Dieu. Et donc, notre amour pour la parole de Dieu, c'est l'amour pour... C'est un amour qui va à l'égard d'une lettre d'amour qui m'a été écrite. Lorsqu'Esther et moi, on se fréquentait, je suis parti dans l'été précédent notre mariage, je suis allé faire un Gibec. Et puis... Bon, officiellement, t'es pas supposé te fréquenter quand tu vas dans Gibec, c'est compliqué, là, il y avait toutes sortes de règles, puis on avait un petit passe-droit, on avait le droit de s'écrire. Et puis donc, on s'écrivait, puis j'ai passé 5 semaines à Bécomo. C'est un petit peu loin pour 2 jeunes, tout ça, pour se voir. Et donc, on s'envoyait des lettres. Puis quand je recevais une lettre d'Esther, c'était Esther que je recevais. Vous comprenez? J'avais des nouvelles d'Esther, j'avais Esther devant moi, je ressentais ses émotions quand je lisais sa lettre. J'en parle puis je suis encore ému. Et donc, si j'aime la Bible, c'est pas parce que la Bible fait de moi quelqu'un qui sait comment argumenter, parce qu'elle me donne de la prestance, parce que j'ai des réponses à tous les questionnements des gens. Si j'aime la Bible, c'est parce qu'elle éveille en moi un amour profond pour Dieu. Et parce qu'à travers la Bible, je découvre l'amour de Dieu pour moi quotidiennement. Le psaume 119, c'est le bon endroit où commencer un cours sur la Bible si je veux comprendre comment les chrétiens voient la Bible. Parce que les chrétiens voient premièrement la Bible comme une lettre d'amour que Dieu nous a écrite, où il se révèle à nous, on est en fréquentation puis il est en train de se faire connaître à nous. Et c'est l'expérience que chacun d'entre nous devrions rechercher. À travers toutes sortes de moyens, là, on est à une époque où c'est super facile de lire la Bible. Je le dis souvent du haut de la chair. Actuellement, je suis en train de l'écouter, puis je l'écoute, bon, c'est en anglais, mais j'ai des acteurs d'Hollywood qui sont en train de me lire la Bible avec des sons environnants, puis les moutons qui passent, puis tu te le quittes, c'est comme... Ça n'a juste aucun bon sens, tu sais. Des puristes diraient « Oublie ça, Saint-Esprit peut pas te parler à travers ça. Bon, » quand ça fait 25 fois tu lis la Bible, des fois tu... Tu cherches des variantes pour qu'il y ait d'autres passages qui te touchent, qui te parlent. T'sais. Fait que, donc, on veut apprendre à aimer, à avoir cette affection-là. Kevin DeYoung dit, « Lorsque nous acceptons tout ce que la Bible déclare à son propre sujet, c'est alors que nous pouvons vraiment croire la parole de Dieu, ressentir ce qu'elle veut produire en nous et lui obéir. » Et donc, pour les chrétiens, c'est premièrement à ça que la Bible sert. Croire ce que Dieu dit, ressentir ce que Dieu veut nous dire, qu'on soit touché, qu'on soit excité à la sainteté, et puis qu'on soit motivé à obéir à la parole de Dieu. Pour un chrétien, c'est ça la Bible. Et donc, si vous êtes sceptique, si vous êtes dans une famille chrétienne, puis vous entendez toujours vos parents ou des chrétiens vous dire la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, ah, mais c'est de cette lettre d'amour-là dont il vous parle. Et c'est pour ça que c'est des freaks de la Bible. Que devrions-nous croire concernant la Bible? Ce que la Bible déclare est vrai. On pourrait aller ailleurs, d'accord? On pourrait aller ailleurs dans les Écritures. Kevin DeYoung décide de faire vraiment toute cette intro-là avec le psaume 119, puis j'aime ce qu'il fait. On va aller défendre la véracité des Écritures plus tard dans le cours. Là, tout ce qu'on regarde ensemble ce matin, c'est que la Bible dit d'elle-même qu'elle dit toujours la vérité. Psaume 119, versets 42-43. « Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Verset 142, « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » La Bible déclare d'elle-même qu'elle est vraie, qu'elle est toujours vraie, entièrement vraie. La parole de Dieu ne change pas. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Donc, lorsqu'on va adresser la question de la transmission des Écritures, puis tout ça, c'est un des volets qu'on va adresser. Mais lorsqu'il dit aussi que sa parole subsiste dans les cieux à toujours, il est en train d'impliquer aussi que Dieu ne change pas d'idée. D'accord? Oui, j'ai des passages dans les Écritures qui me disent que Dieu s'est repenti de vouloir faire du mal à Israël. Là, on est vraiment comme sur le plan de la relation. Mais par exemple, lorsque je comprends que la parole de Dieu est éternelle, je vais chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me faire connaître à travers les 66 livres de la Bible. On parle de la Bible comme une révélation progressive. Bien, je suis en train de lire la Genèse, puis il y a des choses qui apparaissent là qui ne sont pas tout à fait claires. Puis plus j'avance à travers les Écritures, plus tout ça devient clair. Lorsque j'arrive au Nouveau Testament particulièrement, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent énormément dans l'Ancien Testament. D'accord? Mais donc, pour un chrétien, Moïse n'est jamais à opposer à Jésus. D'accord? Ça ne marche pas. Puis, je veux dire, il y a plusieurs chrétiens dans nos assemblées évangéliques, probablement plusieurs ici, qui se disent, « Mais ce bout-là, moi, je pense que Dieu a changé d'idée un petit peu là-dessus. Vous ne le direz pas comme ça, parce que le pasteur dit que ça ne se dit pas comme ça, fait que vous allez garder ça pour vous. Mais dans votre cœur, hein, vous allez vers des portions des Écritures, puis vous dites, « Non, ça, c'est révoqué, ça, c'est fini. » Et donc, je dois régler des questions importantes lorsque je regarde certains enseignements, certains commandements dans l'Ancien Testament, par exemple, le sacrifice des animaux, pour donner un exemple super simple. Je dis, oui, mais si vous êtes chrétien, vous croyez dans l'Ancien Testament, vous ne faites plus de sacrifice. OK, c'est simple comme exemple, mais la vérité, c'est qu'il faut que je trouve une réponse à ça. Si sa vérité ne change pas, si sa parole ne change pas, il n'entre pas en contradiction avec lui-même. Il n'y a pas un « take two » à la fin. Comprenez? L'Église, ce n'est pas deuxième essai après Israël. Non, c'est une suite. C'est vraiment une suite. La perfection de la parole de Dieu est sans limite. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tout ce qui est mature, mais tes commandements, eux, n'ont point de limite. Fait qu'on est en train d'adresser des questions d'éthique super importantes dans notre société qui change à la vitesse de l'éclair sur le plan moral. Encore hier, j'écoutais une émission Radio-Canada d'humoriste, puis il parlait de la Bible homophobe et tout ça, tu sais. Puis là, j'étais là, puis là, je réfléchissais, puis je me disais, le vrai sens, c'est avoir peur des homosexuels, d'accord? Mais si par homophobie, on entend qu'on condamne ça, puis on condamne ça comme un péché, à la limite, je me disais, j'aurais pas le choix d'accepter qu'à un moment donné, dans leur catégorie à eux, ils vont mettre là. Parce qu'ils ne saisissent pas que je peux aimer vraiment la personne sans être d'accord avec tous ses choix, puis lui dire qu'elle est gravement dans l'erreur dans certains domaines de sa vie. D'accord? Mais si la parole de Dieu ne change pas, si ses commandements sont sans limite, bien, c'est ça, je dois aller vers les Écritures et dire, OK, les chrétiens ne font plus de sacrifices, mais est-ce que ça veut dire que Dieu a changé sa moralité? Non, les sacrifices ont été accomplis en Jésus-Christ. Sa perspective sur le bien et le mal n'a jamais changé. Sa parole est éternelle. Et donc, vous avez peut-être à dealer avec cette question-là dans votre propre conscience, à vérifier si c'est là que vous êtes, d'accord? Parce que si vous voulez annoncer l'Évangile, vous allez devoir, à un certain moment donné, adresser ça. les gens, vous allez essayer de vous concentrer sur la personne de Jésus, puis à un moment donné, ils vont me dire, regarde, je veux bien continuer à t'écouter, mais on va juste clarifier quelque chose avant. Les homosexuels, le mariage gay, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que la Bible est d'accord avec ça, oui ou non? Ils vont vous arrêter, là. Vous vous rendrez pas loin dans la présentation de l'Évangile avant qu'ils vous arrêtent. Ils disent, réponds-moi à ça. Non, mais je voudrais te parler de l'amour de Jésus. Oh, est-ce correct? Montre-moi l'amour de Jésus pour les homosexuels. Es-tu d'accord avec les mariages gays? Oui ou non? Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Et donc, il faut que vos convictions soient vraiment claires. Et comme je vous dis dans la première partie du cours, tout ce qu'on regarde ensemble, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur elle-même. Les perfections de la parole de Dieu, la perfection de la parole de Dieu est sans limite. La loi parfaite de Dieu est éternelle. Verset 160, psaume 119, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Donc, la parole de Dieu ne change pas, ses lois ne changent pas. Oui, Karine, je vais répéter ta question fort. Je vais répéter ce que Karine mentionne. Là, Karine, elle voulait juste souligner le fait que Dieu n'est pas plus dur envers, admettons, le mariage gay que la cohabitation, le concubinage, vivre ensemble sans être marié. Mais tout à fait. Puis en fait, le mensonge aussi. Hein? Tu veux dire, ça te prend un mensonge. T'as le choix. Là. Tu peux te marier dans l'homosexualité ou dire un mensonge. Pour l'éternité, ça va te conduire à peu près à la même place. D'accord? Fait que oui, c'est le mal dans les Écritures. Mais dans notre société, cette notion-là, vous voyez, fait que si je veux comme être doux, je vais parler de confusion. Tout à l'heure, je prêche sur le cantique des cantiques. Je vais parler d'une société, une époque qui est extrêmement confuse sur le plan de la sexualité et de l'amour. D'accord? Bon, confusion, ça peut aller. Il y en a qui vont se dire, bon, peut-être. T'sais. Non, moi, je suis en train de sortir de la confusion en assumant mon homosexualité, par exemple. Mais je comprends, peut-être tu dis, peut-être c'est ça. Mais c'est une autre chose quand je m'en vais après, puis je vais plus loin avec ma pensée. Oui, la Bible me dit que le pécheur est un être confus, c'est vrai. Mais la Bible me dit aussi que le pécheur est un être coupable aussi. La Bible me dit que le pécheur est coupable et qu'il est victime du péché qui est en lui aussi à la fois, mais il est coupable, d'accord? Et donc, il faut que mes convictions soient vraiment claires. Ça va? Et quand je dis ça, c'est pas juste qu'il faut que ce soit clair pour moi que Dieu condamne ça. Il faut que ce soit clair pour moi tout ce que Dieu dit par rapport aux pécheurs. Il me dit de les aimer vraiment. Fait que là, il va falloir que je démêle dans mon esprit qu'est-ce que ça veut dire condamner un péché puis aimer la personne. Il faut que je comprenne ce que la Bible dit là-dessus aussi. D'accord? Et donc, c'est pour ça que je veux apprendre à ressentir ce que la Bible me dit de ressentir, de vivre ce que la parole de Dieu me dit de vivre. Ça va? Deux, la parole de Dieu nous commande ce qui est juste et saint. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Alors, voilà un domaine où, à un moment ou à un autre, régulièrement, on lutte. Parce qu'on arrive à un endroit puis on dit, je sais qu'est-ce que la Bible dit, mais il me semble que ce n'est pas la bonne chose à faire. Dans mon cœur, ce n'est pas ça que je ressens. Il me semble que là, ce n'est pas correct ce qui est attendu de moi. Pour certains d'entre vous, c'est réglé depuis des lustres, c'est clair dans votre esprit. Quand la Bible dit quelque chose, c'est ça qui est saint. Peut-être que vous n'avez pas souffert assez encore. Je vous provoque un peu, là. Peut-être que vous n'avez pas souffert assez encore. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre vie, il va survenir une circonstance où vous allez tellement souffrir que là, il va y avoir un profond combat à l'intérieur de vous qui va dire, « Je sais que la Bible dit ça, mais ça me semble injuste ce que la Bible me demande. » Parce que la souffrance vient comme troubler notre pensée et tout ça. Et à moins que ça, sans même passer par une épreuve semblable, certains d'entre vous, vous êtes dans les Écritures, vous lisez des passages, puis vous dites, ça n'a pas d'allure. moralement, ça ne rentre pas dans mon esprit. Puis je veux dire, bon, ceux d'entre nous qui ont été élevés dans un foyer chrétien, on lit les Écritures, des fois c'est plus simple. C'est comme si tout ton système moral il est construit avec ça. Souvent, les enfants qui ont été vraiment guidés dans la parole de Dieu dans leur enfance arrivent à l'école, puis après ça, ils reviennent de l'école, puis disent hey, « ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils ont dit? » Puis là, toi, tu t'assois avec ton jeune, tu dis « mais je ne sais même pas si tu es chrétien, mon vieux. » Oui, mais il a ta vision du monde, par exemple. Il a adopté ta vision du monde. Donc, dans ce cas-là, ça va. Les Écritures disent quelque chose, ça va. D'autres d'entre nous, on arrive à la foi chrétienne avec une vision du monde qui est tellement loin de la Bible. Tellement loin de la Bible. Que là, on arrive en contact avec des choses que la Bible dit, puis ça vient nous choquer intérieurement. C'est normal. C'est normal. D'accord? J'arrive avec une autre vision du monde. Puis Dieu me dit, non, je vais te montrer le monde que j'ai créé. Je vais t'expliquer c'est quoi ma vision du monde. C'est moi le créateur. Puis là, il y a un choc d'idées, il y a un choc de valeurs qui se produit là. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, ça, là. D'accord? Tu as saisi l'Évangile, tu es chrétien. Tu es en train de laisser la parole de Dieu renouveler ton intelligence. Changer ta vision du monde pour adopter la vision que Dieu a du monde. Et donc, certains d'entre vous, vous êtes en train de lire des passages, puis vous dites, c'est pas juste cette affaire-là, c'est pas sain. OK, c'est pas un problème. Continue à lire. Continue à comprendre la vision du monde que Dieu a. Tu vas voir en bout de ligne, tu vas dire, il n'est pas fou pareil, Dieu. Il savait un petit peu ce qu'il faisait. D'accord? Alors, la parole de Dieu, tout ce qu'elle nous commande est juste et saint. Oui, c'est vrai, des fois, il va arriver qu'on déforme le sens des Écritures, on ne comprend pas bien le contexte. Il y a des choses qu'on va faire qui sont... On va voir des chrétiens faire des choses qui ne sont pas saintes du tout, puis ils vont se justifier avec la Bible, mais c'est qu'ils déforment le sens des Écritures dans certains cas. D'accord? Mais si je comprends bien ce qu'elle dit, tout ce qu'elle commande est juste et saint. La parole de Dieu nous donne ce qui est bon. On trouve en elle, puis là je vais défiler ça rapidement, on trouve en elle le chemin du bonheur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Et donc, on va trouver même le bonheur au milieu de la souffrance et de la tristesse parfois. D'accord? Je ne suis pas en train de dire ici que les voies de celui qui marche avec Dieu vont toujours être faciles. Au contraire. Mais même à travers la vallée de l'ombre de la mort, je vais trouver le bonheur en Dieu parce que je sais au plus profond de moi-même que Dieu est avec moi, que je suis en train de faire ce que je dois faire puis que Dieu va se glorifier à travers ça. La parole de Dieu nous montre la voie pour éviter la honte. Puisse mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Et la parole de Dieu vient affermir en moi, faire en moi un homme, une femme de Dieu qui, même si certaines personnes voudraient jeter de la honte sur moi, je sais au plus profond de moi-même que je suis en train de faire la bonne chose. Et donc, je suis capable de me tenir debout parce que je fais ce que Dieu me demande de faire et je n'ai pas à rougir à la lecture de ses commandements. Maintenant, heureusement, il y a l'Évangile parce que je pense qu'on va probablement tous rougir à la lecture de la parole de Dieu régulièrement jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. D'accord? La parole de Dieu nous convainc. Mais en même temps, plus je grandis en maturité, plus l'homme que Dieu veut former en moi, Christ que Dieu veut former en moi, fait que je lis les Écritures puis je suis bien à la lecture des Écritures. Ce n'est pas constamment un jugement sur ma vie, c'est plutôt un encouragement. Ça me renforce à marcher dans ses voies. Je vais juste lire les titres de ce qui suit là, pour avoir le temps de compléter le cours. La voie de la sécurité, donc une protection, le chemin de la sagesse, elle console, et relève. Vous devez apprendre à connaître toute la Bible pour apprendre à aller puiser dans la Bible ce que vous avez besoin aussi au moment où vous en avez besoin. D'accord? Parce que lorsque je lis ça, évidemment, je pense à toutes ces années que j'ai passées à lire un proverbe à tous les jours. Je pense que c'est si votre vision du monde est tout croche, c'est un des endroits où commencer. Il y a 31 chapitres, puis tu lis un chapitre à tous les jours, puis Puis là, c'est un aspect que tu vas chercher. Donc, apprendre à connaître toutes les Écritures pour apprendre à aller me nourrir à différentes saisons, différents moments, différentes questions dans ma vie. Que devrions-nous ressentir en lisant, en étudiant et en méditant la parole de Dieu? Elle fait nos délices. Psaume 119, 14 à 16. « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances et tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Et j'espère que d'ici la fin du cours, plusieurs d'entre vous qui vous dites « Non, c'est sec pour moi cette affaire-là, je ne fais pas mes délices de la parole de Dieu. » J'espère que ça va avoir changé, que vous allez avoir grandi dans ce domaine-là. Il y a différentes manières de le faire. La mémorisation des Écritures, alors s'il y a des passages que vous aimez particulièrement, qui vous touchent davantage, vous pouvez les mémoriser pour rester là. Et après ça, tranquillement avancer dans votre lecture de la Bible, votre étude de la Bible. Alors, je ne pense pas qu'on a tous les mêmes dons. Je ne pense pas qu'on a tous les mêmes talents. Et donc, on est tous appelés à avoir exactement le même rapport à la Bible. D'accord? Il y en a que c'est des docteurs, c'est des étudiants. Ils vont là, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils réussissent à mettre toutes les pièces ensemble pour être bien, puis toujours aller creuser, puis ça les stimule. Lorsqu'ils sont stimulés intellectuellement, ils voient la gloire de Dieu et ils aiment étudier la doctrine. D'accord? D'autres, non, ce n'est pas ça qui va les stimuler le plus, c'est d'aller voir juste simplement ce que Dieu demande, puis à quel point c'est concret dans la vie de tous les jours, à quel point ça vient s'appliquer dans la vie de tous les jours. D'accord? On est différents, chacun d'entre nous. Mais par la grâce de Dieu, c'est ça que je demande au Seigneur, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous, d'ici la fin du cours, on ait une plus grande affection envers la parole de Dieu, qu'elle devienne délectable. Nous la désirons, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Des fois, je jase avec des chrétiens, puis pour eux, chercher Dieu, il n'y a pas une relation directe avec lire la Bible. D'accord? Puis je ne veux pas essayer de faire cadrer tout le monde dans le même cadre, d'accord? Mais chacun d'entre nous, on doit grandir à cet égard-là. Il y a des gens, par exemple, j'avais une rencontre de coaching avec les gars l'année dernière, puis je posais la question, je dis, quand est-ce que vous avez le plus le sentiment que vous parlez à Dieu et que Dieu vous parle? Dans la prière ou quand vous lisez la Bible? Puis il y a plus de gars qui m'ont dit dans la prière que lorsque je lis la Bible. Puis je crois que Dieu parle, parce qu'on a son esprit qui est en nous, puis il nous rappelle des choses, il nous montre des choses qu'il veut qu'on fasse, on pense à notre famille, on pense à des gens autour de nous, puis notre cœur est disposé à travers la prière, d'accord? Je pense que ça, c'est là, ça fait partie de la réalité de l'expérience chrétienne. Mais en même temps, ce que le psalmiste est en train de dire ici, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et donc, lorsqu'il cherche Dieu, c'est à travers les commandements de Dieu qu'il trouve Dieu. C'est en méditant sur la parole de Dieu, sur les statuts de Dieu, sur la pensée de Dieu. Alors, si dans votre esprit, vous dites « J'aime Dieu, mais je ne désire pas beaucoup passer du temps dans la parole », ben, c'est comme si vous passiez juste des soirées à sortir au cinéma avec votre épouse ou avec votre époux. On est ensemble, collé-collé, mais on n'est pas en train de dialoguer. D'accord? Oui, Sylvain.
Est-ce que je peux juger comment j'aime Dieu en jugeant comment j'aime les
Écritures? OK. La question de Sylvain, c'est est-ce que je peux évaluer ou juger dans quelle mesure j'aime Dieu à la mesure dans laquelle j'aime les Saintes Écritures? Ma réponse, c'est oui et non. D'accord? Si ça fait 15 ans que vous êtes chrétien, sans l'ombre d'un doute. D'accord? Donc, je pense qu'il y a un processus, parce qu'on a tous, chacun d'entre nous, notre histoire. Et si quelqu'un vous a annoncé l'Évangile de Jésus-Christ, tu peux avoir un amour passionné pour Dieu, puis être mal à l'aise avec le livre, être entré en contact. Mais quand tu grandis en maturité spirituelle, ben c'est ça, hein, un couple qui vit ensemble pendant 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, puis qui demeure amoureux, c'est qu'on est en quête constante de comprendre l'autre puis de l'accompagner. C'est ça qui se passe. Hein. un couple qui demeure amoureux après toutes ces années-là, c'est que je suis encore là pour te connaître, puis savoir ce que tu vis maintenant, puis être à l'écoute, puis t'accompagner là-dedans, puis sentir un peu ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur aujourd'hui. C'est ça un couple qui est en amour après 25 ans. En tout cas, c'est un peu notre expérience, je pense à Esther et moi, c'est que on veut pas, il y a tant d'épreuves de la vie qui font, puis tant de péchés dans nos vies qui font qu'on pourrait prendre cette distance-là, puis plus s'intéresser à l'autre, d'accord? Fait que si vous avez accepté le Seigneur l'année dernière, puis que dans 5 ans d'ici, votre amour pour la parole de Dieu est encore très, 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 très pauvre, probablement que la relation est assez superficielle. Bon, il y a d'autres dangers qui viennent avec ça, c'est que ça se peut aussi que votre relation soit relativement fausse, parce que vous allez plutôt développer votre vision de Dieu que ce que Dieu nous dit sur lui. Comprenez? Comme un couple où le gars ou la fille est toujours, 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 toujours en train de parler, jamais en train d'écouter. Puis à un moment donné, l'autre te pète une coche après 7 ans de mariage, puis il dit, mais tu ne me connais même pas, parce que tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu n'as aucune idée. Puis là, il commence à déballer son sac. L'autre, il tombe sur le dos, puis il dit, mais d'où ça sort, ça? Ben, c'était fermé à trappe un peu. Tu m'avais écouté, là. Tu aurais su beaucoup de choses. D'accord? Fait que dans un sens, tu sais, je pense que lorsque tu grandis, c'est la même chose. C'est la même chose. Et vous êtes en danger, là, pour moi, c'est vraiment un danger. Vous êtes en danger d'être dans une relation fausse avec Dieu. Si au fur et à mesure que vous grandissez, les années passent, votre amour pour la parole de Dieu ne grandit pas, ben, en tout cas, j'espère que vous écoutez bien le dimanche. D'accord? Parce que ça ira pas fort, fort, fort. Ça ira pas profond. Fait que je pense qu'à long terme, oui. La réponse, c'est oui. Je peux mesurer mon amour pour Dieu à la mesure de mon amour pour la parole de Dieu, sans nécessairement tous devenir des docteurs puis des gens qui sont des maniaques de doctrine. D'accord? C'est ça. Elle est notre appui. La parole de Dieu est notre appui. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Et donc, oui, il y a tout cet aspect-là du rapport à la parole de Dieu qui est un rapport de loi où je lis la Bible et la Bible révèle mon cœur, puis souvent la Bible me condamne, puis après avoir lu la Bible, j'ai besoin de courir à la croix puis m'appuyer sur la grâce pour dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes pas parce que j'ai réussi à faire ça ou pas réussi à faire ça, mais parce que Christ a réussi à le faire. Donc ça, c'est vrai, c'est là, mais en même temps, la parole de Dieu devient de plus en plus vivable parce que je découvre à quel point c'est ça. Je parlais avec un frère tout à l'heure, il va se reconnaître, juste avant. Puis il me dit, dans les dernières années, il y a des choses, des péchés auxquels j'ai renoncé parce que je n'avais pas le goût. C'était plus appétissant, plus attirant pour moi de faire ce que Dieu me demandait de faire. D'accord? Alors, progressivement, la loi de Dieu devient vraiment un appui. Où je ne suis pas juste là comme un safety, comme une protection, comme mon devoir, comme le texte qui me condamne, puis OK, je reviens, Seigneur. Non, ce n'est pas juste ça. C'est qu'à un moment donné, je deviens vraiment fort, littéralement fort, parce que ce que je suis concorde avec la parole, et il y a cette force-là de l'homme qui marche avec Dieu. J'ai toujours été attiré par cette vision que le livre des Proverbes donne de celui qui marche avec Dieu. Un homme qui est fort, une femme qui est forte, parce qu'elle est guidée par des préceptes divins et saints. Et donc, progressivement, mon cœur s'élargit parce que je prends plaisir à marcher selon les commandements de Dieu. Et on termine avec « Que devrions-nous faire avec la parole de Dieu? » Et on devrait la chanter. Donc, une église qui chante juste des chants qui ont été écrits par leurs contemporains ou par des hommes, puis qui n'apprend pas à chanter la parole, se prive de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On devrait annoncer la parole de Dieu, la déclamer dans nos foyers, aux gens autour de nous. On devrait l'avoir sur notre bouche constamment pour pouvoir la partager. On est là pour annoncer la parole de Dieu. Tu vas toujours faire mieux en annonçant la parole de Dieu qu'en annonçant ton message sur Dieu. Toujours, toujours. Ce matin, on s'en va dans le cantique des cantiques. Puis là, je ne sais pas, ça fait combien de monde qui me disent, « En tout cas, t'es courageux d'aller dans ce livre-là, tu sais, puis ouf, j'ai pas entendu ça souvent, tu sais, puis probablement que je suis un grand naïf, mais ce matin, j'étais dans la prière, puis je disais, « Seigneur, c'est ta parole. » Moi, je vais dire ce que je vois dans le texte, tu sais. Après ça, c'est pas vraiment mon problème, c'est à toi de pas le mettre là, ce livre-là. Tu sais? Fait que mon assurance à moi, comme prédicateur, mon assurance à moi vient pas de Yannick Étier. En fait, sûrement que souvent c'est le cas, mais je veux dire, c'est bien innocent de ma part quand c'est le cas, vous comprenez? Mon assurance doit venir de la parole de Dieu. Et parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est annoncer la parole de Dieu. Donc, on doit l'annoncer. On doit l'étudier, la parole de Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de notre vision du monde que Dieu veut réformer. On doit l'étudier, la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Moi, là, j'ai une mauvaise mémoire. D'accord? J'ai apprendre les langues, à part l'anglais puis le français, parce que on m'a donné ça dans mon enfance. Apprendre les langues, c'est super difficile pour moi. Vous demanderez aux gens à Bouffe pour tous, je suis encore en train d'apprendre 1 à 20 en espagnol. Ça n'a aucun bon sens. D'accord? Mais une des premières choses que j'ai faites quand je me suis converti, j'ai commencé à mémoriser des Écritures. Puis là, j'ai commencé à trouver ça le fun. Pas 2 versets, 3 versets, 1 chapitre, 2 chapitres. Les épîtres pastorales au complet. D'accord? Ça veut dire 1, 2, Timothée, Tite, Philémon. Avec mes amis à se lancer des défis. J'ai pas de mémoire. Je suis désolé, là, ceux qui disent « Ouais, toi, t'as de mémoire. » Non, non, j'ai pas de mémoire. Faites-moi pas faire un examen là-dessus maintenant. Il faudrait que j'aille prendre une demi-heure pour les réviser, d'accord? Mais il reste que ces passages-là sont les passages qui viennent encore très, très souvent dans mon esprit. Romains 6, Éphésiens 4, 1 Jean que j'ai mémorisé, d'accord? Ça vient dans mon esprit rapidement parce que c'est des passages que j'ai mémorisés. Et Dieu s'en sort régulièrement. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu? On doit évidemment, premièrement, lui obéir. Obéir à la parole de Dieu. Louer Dieu pour sa parole. Ça veut dire, chaque fois que je prends plaisir à la loi de Dieu, que je vais dedans, puis que je dis, Seigneur, tableau que tu es intelligent, puis tu es sage. Je suis juste en train de louer Dieu pour sa parole. Et puis, apprendre à prier les promesses de Dieu. Apprendre à prier la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, mais une des meilleures manières d'apprendre à prier, si vous n'êtes pas à l'aise avec la prière, vous prenez un psaume, puis vous priez le psaume. Fait que le psaume commence en disant « Heureux celui qui marche dans les voies de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, garde mon cœur, je veux marcher dans tes voies parce que je sais que le bonheur est là. » Je viens de prier ce verset-là, vous voyez? Et donc, j'apprends à prier à partir de la parole de Dieu, parce que je vais prendre Dieu au mot. Taking God at His word. Prendre Dieu au mot. Et puis à ce moment-là, progressivement dans ma vie de prière, j'en viens à prendre de l'assurance. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez vous surprendre. Vous allez être des Moïse qui s'en viennent argumenter avec Dieu. Pas pour dire à Dieu qu'il est dans l'erreur, mais pour dire à Dieu, Seigneur, c'est ton nom. Puis tu as dit que tu allais défendre ton nom. J'ai besoin de voir ta gloire parce que tu l'as dit, Seigneur. Et là, je deviens un intercesseur. Je me sers de la parole pour aller entre Dieu et les hommes, parce que l'Esprit de Dieu est en moi, puis il m'amène dans l'intercession. Donc, j'apprends à prier avec la parole de Dieu. Alors, voilà pour l'introduction ce matin. On va terminer ensemble dans un mot de prière. Si vous venez d'arriver dans le cours, il y a une feuille qui circule. Petite feuille, il est rendu où la petite feuille pour ajouter sur la liste d'envoi? Hélène, là-bas. Là, si vous voulez recevoir les notes de cours le vendredi, vous allez mettre votre adresse courriel bien lisible sur ça, s'il vous plaît. Vous allez être informé en même temps si jamais il y a comme un imprévu, quelque chose, le cours est annulé. On vous en informe là aussi. Les notes de cours en PDF et en audio se retrouvent sur le site web. Là. Des fois, il y a des petits pépins, mais en général, on est là, on est fidèles. Donc, vous pouvez aller écouter les leçons que vous avez manquées. Dans ces premières notes-là, j'ai l'impression là, qu'il ne reste pas de copie derrière. Si quelqu'un veut, vous pouvez venir me piquer ma copie. Mais dans ces premières notes-là, vous allez trouver les deux livres sur lesquels je m'appuie pour le cours. Et donc, si vous voulez aller plus loin et que vous êtes à l'aise en anglais, go, allez-y avec ça. Je vous encourage à les lire dans cet ordre-là, même si vous êtes des techniciens qui aimez lire Blomberg plus que Kevin DeYoung. Commencez par votre affection pour la parole de Dieu avec Kevin DeYoung. Puis si vous voulez lire en français, je vous ferai des recommandations. C'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, nous voulons t'adorer parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, tu es parfait, tu es saint, tu es juste, Seigneur. Et plus j'apprends à te connaître, plus les années passent, Seigneur, plus je me dis, mais combien j'ai été cabochon de ne pas construire ma vie sur ta parole toutes ces années-là, Seigneur, parce que ta loi est bonne, ta loi est parfaite, ta loi est justice, grâce. En même temps, elle est amour et sainteté, Seigneur. Elle aiguise mon jugement, mais dispose mon cœur aussi à marcher dans tes voies, Seigneur, à m'éloigner du péché. Ta parole me donne de la force, de l'assurance quand mon cœur est dans le doute. Ta parole me rassure lorsque ma foi devient chambranlante. Ta parole me rend sage, Seigneur, pour devenir un sage conseiller. Ta parole me rend humble pour savoir écouter, Seigneur. Ta parole me donne un discernement pour vivre aujourd'hui, dans mon temps, dans mon époque, et comprendre les choses dans un monde confus. Seigneur, que ta parole habite nos cœurs, que ta parole soit précieuse dans notre temps, Seigneur, que nous nous consacrions à la méditer, à la lire, à la prier, à l'étudier, Seigneur. Et je te prie, Père, pour ceux d'entre nous qui sont peut-être sceptiques, ils sont dans une démarche de recherche, viens leur parler à travers ta parole dans cette session, Seigneur. Parce qu'on le reconnaît, ta parole est parfaite et tu sais faire la preuve de cela, Seigneur, parfaitement. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.